Bonjour à tous, je suis tenté de commencer en espérant que ça fera arriver notre dernier orateur. Comme quoi la magie marche encore. Donc merci à tous d'être là pour cette table ronde sur l'obsolescence des sciences. Alors c'est un sujet un petit peu paradoxal, ce qui se comprend dans une édition sur le temps. On a l'habitude de penser à la science-fiction comme une des littératures qui joue avec les limites de la science, qui tient, au moins ce qui concerne la science-fiction, à être sur le fil, toujours à jouer avec les dernières idées, les idées les plus récentes. Il y a aussi quelque chose d'un peu paradoxal, parce qu'il existe une science-fiction ancienne qui marche encore, qu'on peut encore lire des textes qui jouent avec des idées qui sont déjà anciennes, voire périmées. Et il se trouve même des auteurs pour jouer tout à fait délibérément avec des sciences anciennes, avec des idées déjà dépassées et qu'on sait dépasser. Alors pour discuter de ces paradoxes, on a un panel en or massif aujourd'hui, avec en commençant de gauche à droite. J'assume. C'est Jean-Daniel Breck, qui est avant tout traducteur, mais traducteur en particulier de science-fiction ancienne, qui est aussi éditeur, qui a beaucoup travaillé ces dernières années pour remettre à disposition du public des œuvres, en particulier du début du XXe siècle. Plus trois auteurs, Claude Eken, qui est... je suis tenté de dire qu'on ne présente aucun des trois, mais... Au diable l'avarice. Donc Claude Eken, qui est l'une des figures de la science-fiction française depuis les années 80, qui a écrit un nombre de romans tout à fait considérable, et qui nous promet pour très bientôt un grand texte sur les origines de la science du XXe siècle, en particulier de la mécanique quantique. Donc qui fait partie des auteurs qui font un travail énorme de documentation pour s'approprier les idées sur lesquelles il travaille, y compris quand ce sont des choses aussi compliquées que la mécanique quantique du début du XXe siècle. À sa droite, Jean-Claude Duniac, romancier également, novelliste, scientifique aussi dans le civil. Donc, en plus de ses activités d'auteur et d'éditeur, d'ailleurs, par le passé également, et de... sinon directeur de revue, du moins de directeur artistique de revue. Il est ingénieur, il est docteur en informatique, il est aujourd'hui ingénieur chez, je ne sais jamais si on doit dire Aérospatiale ou Airbus Industrie. Chez Sud Aviation. Et enfin, Laurent Jeunefort, là encore, écrivain actif depuis plusieurs décennies maintenant, depuis les années 80, avec un nombre de romans qui doit... avoisiner la quarantaine ou la cinquantaine.
Je suis très vieux.
Tu es très vieux, mais malheureusement, je crains d'avoir
encore. On parle d'obsolescence, justement.
Mais qui s'était aussi, en plus de ses activités d'auteur, qui s'était amusé à passer une thèse de doctorat sur la science-fiction il y a quelques années. Donc, il avait aussi beaucoup réfléchi et travaillé sur l'histoire de la littérature et sur la prise en compte d'idées un petit peu anciennes, éventuellement. Je suis tenté de commencer cette discussion en donnant la parole à notre spécialiste de littérature ancienne, à Jean-Daniel. Qu'est-ce qui t'amène à chercher à remettre au goût du jour des auteurs anciens, et en particulier des auteurs de science-fiction, donc un dialogue avec leur science de leur temps qui peut être dépassé?
Alors, d'abord, malheureusement, je voudrais bien publier des textes de science-fiction anglo-saxons inédits en français ou oubliés, mais je n'en ai pas trouvé beaucoup qui soient dignes d'intérêt. J'ai trouvé un auteur absolument passionnant, mais pour l'instant, je ne m'y suis pas attaqué parce que ce sont des gros livres. Et c'est le travail d'édition et de traduction que je fais dans ces cadres-là est malheureusement bénévole, vu les faibles chiffres de vente. Mais ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'on avait, comme c'est devenu la tradition dans la science-fiction, on avait des auteurs qui se tenaient au courant des découvertes, ou qui essayait d'extrapoler. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un fil rouge qui court dans pas mal de romans de cette époque, aussi bien anglais, américain que français. C'est suite aux découvertes des Curie sur le radium, la substance miraculeuse, la merveille qui permet de propulser les fusées jusque dans toutes les planètes du système solaire. Bon, j'ai lu il n'y a pas longtemps un roman français qui est assez extraordinaire, en ce sens que c'est un voyage interplanétaire qui se déroule pendant la guerre de 1914, alors que les intrépides astronautes français partent avant. Ils arrivent sur Saturne, qui bien entendu n'est pas du tout conforme au portrait qu'on se fait de Saturne aujourd'hui, ils trouvent des Allemands qui les ont précédés et qui leur expliquent qu'il s'est passé des choses sur Terre. Et ils reviennent, enfin il y a tout un tas d'aventures assez palpitantes. Et comme l'un des co-auteurs était un savant, un astronome, toutes les descriptions de trajectoires, de manœuvres orbitales, etc., sont rigoureusement conformes à la réalité. Et mieux, je pense que Hergé ou ses scénaristes avaient lu ce bouquin, parce que les deux Hergé, Destination Lune et Objectif Lune, et On a marché sur la Lune, pardon, c'est exactement les mêmes manœuvres, tout, du début à la fin. Alors, c'est passionnant au niveau de l'histoire, des images de la science. Par contre, au niveau de la psychologie des personnages, des relations entre les sexes, des relations entre les classes, c'est à hurler de rire tellement c'est caricatural. Donc, vous voyez, il y a un contraste, c'est ce genre de choses qui me plaît. Alors, le bouquin, on le trouve, je crois que quelqu'un l'a réédité en numérique il n'y a pas longtemps, ça s'appelle L'Anneau de Feu. Ou L'Anneau de Lumière, c'est de un duo qui signait Miral Viguer.
Est-ce que le rapport à la science ou l'actualité de la science de l'époque a une quelconque importance dans le choix des romans que tu traduis?
Je choisis les romans que l'on me propose et qui me plaisent dans la science-fiction, parce que je te dis, dans le cadre de mes travaux sur la littérature, on va dire, de la Belle Époque, je me concentre davantage sur le policier, donc je pense que ce n'est pas le sujet. Mais l'auteur anglais qui me passionne et qui est quelqu'un de très connu des historiens, c'est George Griffiths, qui a écrit des romans d'aventure. Il a même écrit un roman d'heroic fantasy, enfin moi j'appelle ça de l'heroic fantasy, et il a aussi écrit des romans de guerre future. Alors la guerre future à cette époque-là, entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914, la guerre future, ça travaillait beaucoup les esprits. Les Anglais se voyaient envahis par les Français, les Allemands, tous leurs rivaux, etc. Et Griffiths a imaginé, une invention magique, un métal, une substance qui permet de développer des énergies considérables, et paf, la guerre éclate, et ça ressemble, et c'est un livre qui a été écrit dans les années 1890-1900, et comme Griffiths n'était pas bête, qu'il était informé, il décrit des choses, des batailles, des stratégies qui ont une ressemblance sidérante avec ce qui s'est passé après dans la réalité. Notamment, il avait vu l'importance stratégique de Gallipoli, et donc il y a une bataille de Gallipoli dans sa guerre fictive. Et par contre, au niveau de l'imagination et de la rigueur scientifique, on va dire que ça pêche un peu. Il n'était pas, comme quelqu'un comme Ronnie Aîné, qui connaissait des scientifiques et qui prenait conseil auprès d'eux, quoi. Griffith, c'était avant tout un écrivain d'aventure.
Claude, j'imagine que la rigueur scientifique est beaucoup plus importante pour toi.
La rigueur scientifique, pardon,
a beaucoup plus d'importance pour toi.
Ah, pour moi, oui, la rigueur scientifique, c'est quand même le meilleur moyen d'écrire de la science-fiction, parce que si on a du mal à croire à l'histoire parce que il y a de gros problèmes de plausibilité, c'est quand même un peu gênant, quoi. C'est un peu comme si en regardant un film, tout d'un coup, on voit pendre le micro du son. On se dit on se rappelle qu'il y a des gens là derrière qui sont en train de filmer, qu'il y a toute une équipe d'ingénieurs du son, de l'image, et que ce n'est pas, on sort de l'histoire. Donc plus on a envie de croire à l'histoire, plus on donne de détails crédibles, plausibles, parce qu'il faut quand même laisser la place à l'imaginaire, à ce moment-là, il me semble que l'histoire est meilleure. Dans l'historique, ça sera peut-être la même chose. Il manquera des détails, il y a des failles dans une biographie. C'est là où l'on peut essayer de s'introduire et d'expliquer différemment ce qui s'est passé, de jouer, quoi. Voilà. Mais c'est essentiel. Pour moi, je me sens bien quand je suis documenté, que je n'ai pas commis d'erreur et qu'il n'y a pas quelqu'un derrière aussi qui va me dire « Ah, tu sais, ça ne marche pas comme ça, donc tu t'es planté, ton histoire, elle est fausse. »
Et quand tu mets en scène un personnage qui, typiquement dans un roman à forte composante historique, un personnage dont les idées ont été invalidées par la suite, comment joues-tu l'écriture de ce personnage? Est-ce que tu prends le risque de le ridiculiser? Est-ce que tu tentes de te l'approprier, de défendre ses idées avec autant de passion qu'il a pu le faire lui-même?
Ah ben oui, mais là à ce moment-là, le personnage a existé. J'ai envie de le défendre, même s'il s'est trompé, je vais le mettre en scène, je vais chercher tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant en lui, et puis je vais lire sa biographie dans le moindre détail, histoire de comprendre des choses. Alors, je sais pas, j'ai peut-être un exemple qui n'est pas de la science-fiction, qui est une bande dessinée historique que j'avais réalisée sur la révolte vigneronne en 1907. C'était dans le Midi. Celui qui a mené cette marche des vignerons chaque week-end, parce qu'il travaillait quand même la semaine pour protester contre le cours du vin qui était trop bas. C'était quelqu'un qui rêvait de gloire, de grandeur, mais simplement d'être « je suis celui qui va sauver tout le monde ». Et il était un petit peu ridicule et pathétique. Donc je suis allé chercher dans sa biographie des détails. Il tenait un café et il jouait des pièces de théâtre là-dedans. Il a joué le rôle de Ruy Blas, qui est un petit peu le plus dur du répertoire français, puisqu'il est très long. Et je me suis rendu compte que dans ses discours, il y avait des phrases à la Victor Hugo. Donc évidemment, il s'inspirait de son théâtre, donc ça c'était déjà un petit élément intéressant. Il avait une cousine qui était venue habiter à la maison juste un petit peu avant la révolte, et lorsque je pouvais travailler avec des historiens, leur poser des questions, je leur dis « mais cette femme qui normalement habite Paris, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un village de 1100 habitants où il n'y a absolument rien alors même qu'elle menait grand train de vie à Paris et qu'elle était d'ailleurs la dame de compagnie de Clémenceau. Et donc fille de grands propriétaires viticoles, mais un petit peu plus loin dans la région. » Et là, elle dit « mais d'où est-ce que vous savez tout ça ? Qu'est-ce que... » Ben, j'ai dit, j'ai lu tous les journaux de l'époque, je relis le tout et je commence à saisir des petits détails qui n'ont pas été exploités dans l'histoire officielle. Et à partir de là, je vais bien sûr pouvoir bâtir un scénario. Tout est exact, mais le point de vue, il sera complètement différent. Et mon personnage, j'en donne une autre interprétation, mais qui sera juste et en même temps intéressante, quoi.
Jean-Claude, tu avais un commentaire ?
Simplement, tu disais, j'essaie d'être crédible. Or, le problème qu'on a avec un certain nombre de sciences en ce moment, c'est qu'elles ne sont pas crédibles quand on essaie d'être exact. C'est-à-dire qu'elles sont contre-intuitives. La mécanique quantique est un magnifique exemple de science non intuitive. Contre-intuitive, c'est-à-dire que ce qu'on croit savoir n'est pas vrai. La statistique, la probabilité, c'est un certain nombre de cas aussi. Il y a des choses extrêmement bizarres. Par exemple, vous savez que pour diminuer le risque qu'il y ait une bombe à bord d'un avion, il vous faut amener une bombe à bord de l'avion. Parce qu'à ce moment-là, la probabilité qu'une deuxième personne ait amené une bombe est encore plus basse que si vous n'en aviez pas amené. Vous voyez, c'est ce qui, je vous recommande pas la technique, d'ailleurs, parce que vous auriez un certain nombre de soucis. Mais c'est le genre de choses contre-intuitives. C'est mathématiquement exact, c'est contre-intuitif. Donc on a déjà ce problème-là. On a un deuxième problème aussi, actuellement, avec les sciences, c'est que c'est très difficile à comprendre. Moi, j'ai un domaine de compétences qui est extrêmement étroit, qui est tout petit. Et quand j'essaie de travailler sur, je sais pas, l'astrophysique ou la biologie ou les choses de ce genre, ou même ne serait-ce que la robotique que je connais un peu, les gens me disent des trucs absolument hallucinants dont je me dis, mais d'où ça sort? Et il me faut du temps pour comprendre, pour interpréter, etc. Par contre, l'énorme avantage qu'on a, ça Claude peut le confirmer, c'est que la grande majorité des scientifiques sont ravis de nous aider. Quand on a quelqu'un qui s'intéresse à leurs travaux, qui leur dit « alors ça se passe comment sur Mars ?» Eh ben, ils vous racontent des trucs. Et j'ai appris une chose, pour en avoir parlé avec des astrophysiciens, c'est qu'il ne faut pas arriver en disant « j'ai telle théorie parce que j'ai besoin de tel effet ». Il faut arriver en disant « j'ai besoin de tel effet, on fait comment ?» Et à ce moment-là, ils vous inventent une théorie qui est incroyablement plus compliquée, géniale, et en plus qui a l'avantage d'être exact, enfin d'être exact dans ce sens-là, et qui est beaucoup plus spectaculaire. Donc, faut faire confiance à l'imagination de ceux qui savent aussi. Ça, on a cette chance-là.
Ou même s'ils disent que ce n'est pas possible, mais quand on a les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible, ça nous permet de trouver autre chose. Ben, les souterrains du temps, là, qui est le dernier bouquin, j'en ai d'abord discuté avec Roland Lehoucq pour savoir comment je pourrais faire une sorte de bombe temporelle. Alors, là aussi, question de plausibilité, j'essaye de faire dans une série de bouquins une science complètement fantaisiste. Par contre, l'enrobage va être ultra réaliste. Là, ça se passe au BNL, l'accélérateur de particules à Brookhaven sur Long Island. Et donc, la manière dont ça se passe là-bas, comment les gens vivent, comment les étudiants viennent y travailler, et puis tout l'environnement de l'île, toutes les légendes et tout ce qui traîne là, est hyper exact. Ça donne un effet de réel qui permet de faire passer les côtés fantaisistes du récit.
Ouais, ce qui est frappant, c'est par exemple que vous lisez un livre qui se passe sur Mars en 2223 et vous avez les gens, qu'est-ce qu'ils écoutent ? Ils écoutent du rap. On se dit, mais déjà, non, c'est juste pas possible. Quand on réfléchit à, vous sortez d'ici, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous mangez, les atmosphères générales, les sons, etc. de votre vie par rapport à ce qui était il y a 40 ans, et vous vous projetez 200 ans plus tard, vous écoutez du rap, je dis non, d'abord, un, vous êtes masochiste, et deux, vous manquez d'imagination. Clairement. Et la question qu'il faut vous poser à ce moment-là, c'est je fais quoi de mes journées, ce travail de réalité. Je suis dans une situation dans laquelle je fonctionne de manière en interactive, par exemple sur des données toute la journée. Je fais quoi quand j'ai fini ça? Ben, je ne vais pas écouter du rap, je ne vais pas écouter Mozart nécessairement non plus. D'ailleurs, je me pose des tas de questions. Je mange quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger? Est-ce que je ne suis pas perfusé, par exemple, des trucs complètement idiots? Moi, ce que j'avais adoré, c'est William Gibson qui écrivait des bouquins au début des années 80 avec des gens qui passaient leur journée à programmer. Vous savez, plonger dans la matrice, c'était les hackers, etc. Et pour éviter d'aller aux toilettes, ben, ils se mettaient des couches. Et pour avoir été à cette époque-là informaticien, et effectivement, chez nous, la cystite, c'est vraiment une maladie professionnelle, parce qu'on se retient d'aller pisser, parce qu'on veut vraiment savoir quel est le résultat du programme qu'on a lancé. Et puis, on a trouvé une erreur, alors on la recorrige, et puis du coup, on n'y va pas, puis on réattend. Et puis, à un moment donné, on finit par se dire, bon, là, il faut vraiment que j'y aille, parce que ça fait trop mal, quoi. Et ça génère des cystites. Ben, ça, William Gibson, il avait compris la problématique. Donc, c'est pas seulement trouver l'idée, c'est trouver tout le contexte qui a changé, dès qu'on commence à se mettre dans un endroit différent ou dans un futur un petit peu lointain. Donc je déconseille le rap.
Laurent, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'inclure des technologies ou des idées scientifiques dépassées dans tes romans, délibérément ?
Non, pas délibérément, sauf sur une uchronie que je suis en train de préparer. Mais... je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Enfin, on travaille un peu pareil, j'ai l'impression, Claude et moi. Maintenant, pour moi, une technologie dépassée, enfin, ou un état de connaissance dépassé, c'est pas rédhibitoire du tout. Par exemple, en fait, c'est la beauté de l'idée, en fait, pour moi, qui compte, qu'elle soit neuve ou pas, finalement. Et par exemple. Taux zéro de Poul Anderson est fondé, donc c'est un bouquin de 1970 je crois, où Poul Anderson se fonde sur un état de connaissance de l'époque qui était qu'on supposait à l'époque que l'univers allait se contracter au bout d'un moment et revenir vers un big crunch et on était dans un modèle d'univers qui a été invalidé après quand on s'est aperçu que non seulement l'univers continuait à s'étendre mais son expansion s'accélérait et donc on allait vers qu'il n'y aurait pas de Big Crunch Taux Zéro prend cette idée et au cœur du roman et le roman est tellement brillant en fait que le fait que ça ait été invalidé par la réalité la réalité de ce qu'on sait maintenant ne déprécie pas le roman en fait parce que le roman lui-même il est brillant à partir de cette histoire à partir de cette base et c'est frappant que le livre n'ait été traduit qu'il y a quelques années ça prouve bien en fait que le fait que l'obsolescence des sciences en réalité n'impacte pas quand le bouquin est bon. Quand la spéculation est bonne, quand la qualité de spéculation est bonne, même si le fondement est dépassé, voilà, c'est la qualité de la spéculation qui vaut en fait dans un bouquin de SF plus que la véracité pure, je pense. La qualité de la spéculation ou juste des fois la beauté même de l'image en fait que ça génère parce que la science ou les technologies génèrent des images et quand par exemple dans Larry Niven il imagine dans son cycle de l'univers connu enfin des non voilà pardon où il imagine en fait une galaxie en train d'exploser avec les soleils centraux qui sont en train d'exploser, et par réaction en chaîne, le cœur de la galaxie explose et toutes les civilisations extraterrestres qui sont migrent vers l'extérieur, et ça génère une sorte d'onde de choc civilisationnelle. Cette idée de comparer une galaxie, les soleils d'une galaxie, aux atomes d'un réacteur nucléaire, je pense que Lane Rinneven, qui était un astrophysicien, il savait très bien que c'était une comparaison qui n'était pas valide. Il n'y a pas de réaction en chaîne, c'est uniquement de la gravité, ça n'a rien à voir avec la fission. Mais l'image est tellement belle, en fait, qu'on s'en fiche à la rigueur. Voilà, l'image est belle. Voilà. L'image est belle.
Puis il y a par exemple au moins une série de livres dans lesquels on travaille sur l'image et sur la beauté des trucs, c'est le steampunk. Où après tout, on imagine que la vapeur est devenue le moyen principal de produire de l'énergie, etc. Et vous avez des choses extraordinaires. Vous avez un ciel surmonté de ballons dirigeables qui lâchent des espèces de petites boules de vapeur. Là, c'est super. Vous avez des mitrailleuses à vapeur. Enfin, c'est des trucs. J'imagine le terroriste avec une Uzi qui est un machin qui est grand comme ça, c'est petit, etc. Avec une espèce d'énorme truc à vapeur avec un type qui pompe à côté. Enfin, ça a un côté vachement rigolo. Et c'est complètement idiot, on le sait, mais on part du principe que comme esthétiquement ça marche bien et comme ça permet d'avoir des espèces de visions hallucinantes, on se dit, ben jouons le jeu. Et les lecteurs marchent très bien avec cette idée-là. On leur dit, on sait bien que, mais faisons comme si, et ma foi, tout va bien.
Et puisque Laurent a évoqué Poul Anderson et Taux Zéro, me revient à l'idée une très très belle nouvelle de Poul Anderson qui date si ma mémoire est bonne, des années 1950, et qui, dès les premiers survols de Jupiter par les sondes, a été totalement obsolète, puisqu'il imaginait que, comme tout le monde à l'époque, dans les années 50, on pensait que Jupiter était une planète, certes gigantesque, mais avec quand même un manteau, une croûte, une surface solide, etc. Évidemment, une atmosphère totalement irrespirable. Et donc, pour coloniser Jupiter, les hommes fabriquent des organismes artificiels, un centaure, donc un centaure à qui ne manque qu'une âme, et on projette l'âme d'un chercheur qui est paralysé, on la projette dans le corps de ce centaure pour qu'il puisse fonder la colonie sur Jupiter. C'est une très très belle idée, qui d'ailleurs, je pense, a été reprise quelque part.
Jean-Claude, tes séries les plus récentes, en particulier sur les trolls, jouent beaucoup avec traitent des sciences, pour autant qu'on puisse considérer les sciences humaines de gestion comme des sciences dures, mais il n'y a pas de raison a priori, sur le mode de l'humour, sur le mode du détournement. Est-ce qu'il était arrivé je me souviens d'organisations, d'entreprises, de dinosaures ou de trolls s'échangeant des messages.
Oui, dinosaures, effectivement, oui. Non, on peut jouer avec ça, on peut faire de la parodie. Mais il y a aussi des auteurs qui se sont amusés à faire des textes absolument hilarants, en prenant un exemple de science dont on sait depuis très longtemps qu'il est complètement idiot. Je crois que c'est Paul Di Filippo qui a écrit une histoire où le système solaire, c'est le modèle aristotélicien. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des planètes toutes petites accrochées comme des lanternes à une espèce de toile dans lequel il y a des trous et derrière il y a Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, vous imaginez bien, c'est comme ça en fait, on le savait pas, mais et donc les nazis, parce que c'est, je crois que c'est Hermann Göring en fait qui est un pilote d'avion qui fait construire au pôle sud un avion particulier pour lui permettre d'atteindre ces planètes-là, et il se pose sur Pluton qui est tout petit, qui est vraiment un truc qui doit faire quelques mètres carrés, quoi. Enfin, il se pose là, et il essaie de regarder Dieu à travers la toile, et il en est aveuglé. Vous voyez, c'est donc on se dit, pour écrire une idée comme ça, il faut être complètement ravagé, mais ça marche vachement bien. Vous voyez, il y a des chats comme ça. Il y avait un type aussi qui avait écrit, je sais plus qui c'était, qui avait écrit une histoire qui se passait au 18e siècle, je crois, où la flogistique, c'était...
Howard Waldrop,
qui était aussi un grand humoriste de la SF. Et donc, grosso modo, il partait du principe qu'à cette époque-là, on croyait qu'il y avait une espèce de gaz invisible qu'on appelait la phlogistique, qui était une force, qui était le responsable de tout ce qui fonctionnait. Et lui trouvait un moyen de l'isoler, puis il faisait accidentellement sauter l'univers en tirant sur un clou qui était posé, ou au moins la Terre. Enfin, c'était un truc assez dingue. Et c'était complètement ravagé. On peut jouer avec ça. On peut jouer avec une idée et montrer son absurdité. Par contre, le nombre de fois où nous, écrivains, on se plante dans le courant de notre vie, c'en est gênant. Moi, j'ai assez peu écrit de hard science, mais j'en ai quand même écrit un petit peu. Et me relire 20 ans après, c'est quelquefois un petit peu délicat. Heureusement, il y a les rééditions. C'est-à-dire, des fois, je peux corriger les bourdes les plus invraisemblables. Mais il y a des fois, effectivement, comme dans le cas de certaines nouvelles, c'est tellement au cœur du truc que, ben, tant pis, je me suis planté.
Il y a un cas célèbre qui, en plus, ne reposait même pas sur une méconnaissance de la science de pointe. C'est la première édition américaine, bien entendu, de l'Anneau Monde de Larry Niven. Mmh. Si vous connaissez bien, si vous vous rappelez du début de l'Anneau Monde, c'est un personnage qui s'appelle Louis Wu, je crois, qui va fêter son 1000e anniversaire. Et ça lui faut un coup de blues, donc il essaie de retarder au maximum le moment. Donc il saute d'une capitale à l'autre en suivant pour retarder le moment au maximum. Et donc le bouquin est sorti. Larry Niven était dans une convention à Boston. Il donnait une conférence. Il y avait plein d'étudiants du MIT dans la salle qui lui ont dit : « Vous savez, monsieur Niven, dans votre livre, la Terre tourne dans le mauvais sens. »
Donc, oui, mais c'est de la science-fiction.
Il s'était planté, une bête étourderie, quoi. Et donc, eh bien, il a refait pour la deuxième réimpression du livre, il a refait toute la scène du début, et il a dédié cette nouvelle édition aux étudiants du MIT qui lui avait bien fait remarquer qu'il avait fait une boulette, quoi.
Ben, si vous lisez un truc qui a été réédité en folio dernièrement, qui s'appelle Les Chronos, c'est de Robert Charles Wilson, c'est un recueil de nouvelles. Les chronolithes. La première nouvelle, à la page 2, comporte une bêtise mathématique, mais plus grosse qu'elle, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que Robert Charles Wilson, évidemment, s'est fait corriger parce que c'est du niveau premier à terminal. Hein, je veux dire, c'est par exemple quelqu'un qui dit la somme de deux nombres premiers est toujours pair. Ben, c'est faux. C'est faux parce que 2 est un nombre premier et 2, c'est le seul nombre premier qui est pair. Vous le rajoutez à tous les autres, ça devient un nombre impair. Bon. Et en plus, il ajoute, mais c'est le genre de théorème que seuls les plus grands mathématiciens peuvent démontrer, etc. Ben, bon. Ah, non, mais on se plante. Hein. Bon. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'édition donc, il sort ça, un certain nombre de gens, évidemment, au Canada, lui font des remarques au Canada et aux États-Unis en lui disant, tu sais, tu t'es planté. Il le réédite, mais en faisant la correction, sauf que ici, quand on le traduit, on se base sur la mauvaise version du truc et on refait la connerie en France. Donc il y en a, hein, je veux dire. Et puis, quelquefois, quand on est auteur, on se relit son truc en disant, bon, j'avais bu, j'étais... Puis on a honte. Bon, ça arrive. Par contre, par pure ignorance, moi, je me rappelle de Spielberg, une interview de Spielberg disant que j'ai regretté de ne pas savoir que les dinosaures avaient des plumes à cette époque, parce que on commençait à le savoir, mais on l'imaginait pas, parce que graphiquement, ça aurait été absolument superbe. Et il disait aussi, il y avait quelqu'un qui avait reconstitué une mâchoire de je ne sais plus quel animal avec sa glotte, avec son cou, et pour imaginer le bruit que ça faisait, et il avait un truc qui faisait une espèce de meuglement hallucinant, et il disait, mais si j'avais su ça, je l'aurais mis dans le film, parce que c'était trop bien. On ne demande pas mieux de mettre ça, c'est juste que c'est dans un labo qui est en pointe et on n'y a pas nécessairement accès, on ne sait pas. On ne sait pas beaucoup de choses. Le nombre de choses qu'on ne sait pas est inimaginable. Le simple fait, par exemple, qu'on n'ait pas imaginé dans les années 90, quand on a parlé, nous, de clonage ou choses comme ça, et qu'on a vu apparaître la réalité du clonage, il y a un truc que les auteurs de science-fiction ont complètement occulté, tous, parce qu'on en a beaucoup parlé du clonage dans les années 60, c'est le fait que la cellule qui a servi à cloner la brebis Dolly, elle avait l'âge où elle a été prélevée. C'est-à-dire que la brebis Dolly est née vieille. Et donc, vous n'avez pas une situation dans laquelle un auteur de science-fiction imaginait ça. On a tous imaginé qu'on faisait des êtres humains en 15 minutes qui permettaient de prélever le cœur pour remplacer le vieillard très riche qui se récupérait un cœur neuf de son clone. Bon, c'était des trucs dingues. Après, les clones se révoltaient, évidemment. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'en fait, il aurait eu un cœur qui était aussi vieux que le sien et probablement d'encore plus mauvais état. Donc, c'était pas une bonne idée. Oui. Ce genre de choses, on le savait pas. Et bon, on s'est planté, quoi. D'ailleurs, il y a très très peu d'histoires de science-fiction maintenant qui reposent sur de vrais clones parce qu'on se plante.
Ça montre quand même qu'en tant qu'auteur de science-fiction, on prend toujours de grands risques pour raconter des histoires dont on n'a pas forcément toutes les réponses, enfin pour lesquelles la science n'a pas encore donné les réponses. Enfin, si elle les avait données, de toute façon, on irait plus loin et ça serait le même problème.
Puisqu'on a évoqué Poul Anderson, qui est un auteur que je connais particulièrement bien, lui, je sais qu'il était dans son travail de tous les jours très au fait des avancées de la science. Il rencontrait régulièrement des scientifiques, il leur piquait des idées, en les mettant leur nom dans les remerciements. Et notamment, il a pu assister à plusieurs reprises au Jet Propulsion Laboratory, au moment clé des itinéraires des sondes, et il était là. Lorsque je ne sais plus si c'était Voyager 1 ou 2, dans les années 1980, a approché Saturne. Et à ce moment-là, il venait d'écrire une longue nouvelle qui s'appelait Le jeu de Saturne, et qui se situait en partie sur une lune, je crois que c'est Japette, qui à l'époque était perçue depuis la Terre par les télescopes comme ayant une face sombre et une face lumineuse, sans qu'on sache pourquoi. Et donc il avait émis une hypothèse sur la nature de Japette, et il attendait impatiemment de voir quelles allaient être les observations de la sonde et les données collectées pour voir si oui ou non ça infirmerait son hypothèse. Et il est reparti content. Ça ne la confirmait pas, mais ça ne l'infirmait pas non plus. Donc, la nouvelle était encore valable, du moins jusqu'à la prochaine sonde.
Voilà, si vous écrivez de la science-fiction, vous aurez intérêt à connaître quelqu'un à la NASA.
On demande au professeur Lehoucq. Hein,
Sinon, l'obsolescence dans les sciences, ce n'est pas simplement les théories qui ont été infirmées ou les choses qui apparaissent comme fausses. Il y a aussi des effets de mode, des théories qui a priori seraient toujours valables mais ne sont plus utilisées. On parlait de mécanique quantique, je pense par exemple aux idées de Louis de Broglie, qui a priori, aux idées de Louis de Broglie, la théorie de l'onde pilote ou de la double solution, qui n'ont jamais été invalidées, qui sont une version alternative de la mécanique quantique mais non orthodoxe. Est-ce que ça peut être intéressant de jouer aussi, de remettre en scène ce type de théorie?
Bon, tout peut être intéressant du moment qu'on arrive à le traiter, savoir comment le prendre. Moi, j'ai regardé aussi les effets de mode qu'il peut y avoir par rapport aux sciences de types de récits qu'on ne raconte plus. Début du siècle, du 20e siècle, on avait tous ces fameux rayons de la mort. Alors, il y avait parce qu'on découvrait plein de rayons, il y avait les rayons X, les alpha et bêta, on ne savait pas encore ce que c'était, et donc il y avait ces fameux rayons N de Blondiot, dont on s'est rendu compte après qu'ils n'existaient pas. Mais alors là, on avait des rayons Z, des rayons delta, des rayons verts, rouges, noirs, enfin bon, il y avait... Tous les romans nous envoyaient des rayons qui avaient des propriétés spéciales. Bon, il n'y a pas que le rayon de la mort, il y avait ceux qui permettaient de rendre invisible la cible.
De rétrécir les gens.
Ou de rétrécir les gens, voilà. Il y avait des rayons qui servaient à plein de choses.
Rayon N permettait de déterminer si une femme était enceinte, par exemple. C'était un programme. Si ça avait existé, c'était un projet majeur de la médecine.
Il y a eu.
De l'échographie, finalement. Ouais.
Il y a eu toute la série, tout ce qui était les pouvoirs psy, qui se sont après mis sur d'autres types de récits, mais au moment où il y avait les expériences de Rhin ou avec ce que faisaient peut-être les soviétiques, on essayait d'exploiter les récits avec la télépathie, avec tous ces pouvoirs-là. Bon, ça a généré un certain nombre de romans et parfois très bons, la poursuite des Slans par exemple. Et maintenant, ce genre d'histoire n'est plus tellement exploité, il est exploité d'une autre manière, à partir peut-être de technologies qui pourraient donner un équivalent de la transmission de pensée, de la télépathie, ou un équivalent d'autres pouvoirs. On le fabrique d'une manière différente plutôt que de le prendre comme ça. Encore que là, je viens juste de lire le roman de Connie Willis, Interférence, où elle prend carrément l'histoire de la télépathie telle qu'elle, elle arrive finalement à le revivifier. Quoi, c'est possible.
Moi, je suis tenté de donner la parole à ça. J'imagine que vous avez des questions pour nos auteurs.
Bonjour à vous. J'avais une question à vous poser sur le fait que, bon, depuis tout à l'heure, j'écoute et je me demande si, par essence même, dans ce genre-là, qui est la science-fiction, avec tout le respect que je vous dois, ce débat est peut-être pas... peut-être un peu... Comment dire ? Le mot fiction, je pense, je voudrais avoir votre avis sur ça, n'abrogerait-il pas peut-être le côté science ? Parce que dans le genre même, bah, on est dans de la science-fiction. Peut-être faux débat, je ne sais pas.
Vous avez parfaitement vu la contradiction dans les termes. On est la science, elle dit... elle interprète les faits observables et elle théorise le réel. Donc il y a la notion de vérité dedans. Et dans la fiction, étymologiquement, c'est ce qui est faux, en fait. Dans la fiction, c'est ce qui est faux. Et on raconte des choses qui n'existent pas, donc qui sont faux. Donc science-fiction, c'est ça... ça a quelque chose de contradictoire en soi. Donc oui,
mais c'est véracité. La fiction, c'est la véracité aussi. Il faut le rendre vraisemblable.
Oui, voilà, mais on peut, Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut dire du vrai avec du faux. C'est ça aussi la force de la science-fiction. Dès qu'on met un tout petit peu de fiction dans quoi que ce soit, ça devient de la fiction. Donc, c'est ça le pacte de lecture entre le lecteur de science-fiction et l'auteur de science-fiction, et le texte. C'est qu'à partir du moment où vous ouvrez la première page d'un roman de science-fiction, vous acceptez des nouvelles règles. Donc, tout ce qu'on va vous dire, c'est la suspension d'incrédulité, tout ce qu'on va vous dire, vous l'acceptez le temps que vous lisez le livre, parce que vous savez que c'est un roman, que c'est un livre. Donc, à partir de ça, a priori, on peut tout se permettre, en réalité. Et on peut tout se permettre, c'est ce qui permet...
Et on se permet tout.
D'intégrer dans la science-fiction des choses aussi irréalistes que Star Wars, par exemple, qui est de la science-fiction, mais avec un niveau de réalisme scientifique extrêmement faible. Et ce qui ne veut pas dire que c'est de la mauvaise science-fiction, c'est juste une science-fiction qui a mis son curseur de réalisme au plus bas. Et ce qui va perdre ce qu'on perd en réalisme, c'est ce que je dis souvent, on le gagne en métaphorique, on le gagne en ce que ça représente en fait, en archétype, dans une valeur qui n'a plus rien de scientifique, mais qui relève de l'humain, du coup. Donc voilà, chacun après met son curseur en fait. Donc l'art science, par exemple, ce que fait Claude ou moi un petit peu moins, on essaie de mettre le curseur un petit peu vers la droite, un petit peu vers plus de réalisme. Mais voilà, et puis d'autres auteurs, ils vont le mettre à gauche, et puis après, voilà, on varie d'une histoire à l'autre aussi.
Oui, mais Laurent,
on n'a pas réellement cette problématique, parce qu'on sait déjà qu'on est dans la fiction.
Mais Laurent, on parle pas de science, on parle de ce que la science entraîne comme transformation. La science-fiction, c'est j'ai de la science quelque part qui a changé quelque chose. Ça peut être de la science sociale, de la physique ou n'importe quoi. Enfin, quelque chose a changé. Et on parle de la manière dont ça a un impact sur les sociétés, sur les gens, sur la vie au quotidien, sur nos personnages, mais aussi sur tout ce qui est la vision du monde en toile de fond. Donc, c'est la science, c'est un moyen de donner de l'impulsion au récit au départ, de changer les choses. C'est vraiment une littérature, moi je dis que c'est une littérature de la métamorphose, c'est une littérature où on envisage un grand bouleversement. Soit il s'est produit, soit il va se produire, soit on est un peu après et on regarde la manière dont ça s'est passé. Et il y en a même un deuxième qui se profile en général. Et donc, c'est vrai que la science de ce côté-là nous sert comme levier pour faire un trou dans la réalité, quoi, clairement. Et avec ça.
C'est une matière première.
C'est une matière première. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comment les gens le vivent. C'est quoi la vie quand votre voisin est télépathe? C'est quoi la vie quand vous pouvez aller sur une autre planète? C'est quoi la vie quand la personne que vous aimez s'éloigne et petit à petit vous vieillissez pendant qu'elle garde son temps local? Donc ça donne la guerre éternelle, ça donne des préoccupations humaines à partir des faits de science qui sont juste utilisés comme moyen que ça se produise. Voilà. Donc on évite un petit peu l'aspect fausseté, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, les scientifiques nous disent, vous illustrez une histoire, ce qu'on appelle en France en ce moment une user story, c'est-à-dire l'histoire utilisateur, l'histoire vue de la personne qui va utiliser le truc. Vous êtes, c'est votre métier, vous écrivez cette histoire-là, et ça nous aide d'une certaine façon à mieux comprendre un bouleversement scientifique et nous habituer à vivre avec, ou au contraire, en avoir peur. C'est par exemple ce qui est en train de se produire en ce moment avec l'intelligence artificielle. Je vous parle en ce moment, c'était hier. Hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui venait du ministère, de la mission de Cédric Villani, le mathématicien, sur l'intelligence artificielle, et on discutait de c'est quoi la vie quotidienne quand il y a des intelligences artificielles autour de nous qui interagissent avec nous. Voilà. Est-ce que c'est effrayant? Est-ce qu'ils sont en train de nous bouffer? Est-ce qu'ils vont s'emparer de la mitrailleuse pour nous tirer dessus? Est-ce que, je sais pas, ou est-ce que ça va devenir des assistants de bas niveau, à peine supérieurs à votre téléphone, et qui vont faire un certain nombre de tâches imbéciles à votre place? Mais à ce moment-là, vous ne saurez plus les faire, donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, toutes ces questions-là, vues du point de vue de l'utilisateur, de Monsieur Dupont ou Madame Durand, qui rentre chez elle et son ménage a été fait. Tiens, on a commandé des serviettes périodiques pour elle, alors que, bon, elle n'a pas rien demandé, mais il s'est aperçu qu'elle n'en avait plus. Enfin, ce genre de questions, et comment les gens réagissent? Ça donne quoi comme société? Quelles sont les questions que ça pose? Et notre boulot, c'est d'être là et d'être quelquefois les empêcheurs de tourner en rond, de construire quelque chose de solide, de crédible. Et vraiment, à chaque étape, on se dit, est-ce que ça se passe bien comme ça? Est-ce que c'est compatible avec ce que je sais? Et à un moment donné, on trouve des choses et on dit aux gens, ben, est-ce que vous aviez vu cet aspect-là? Et on s'aperçoit que les scientifiques, qui sont souvent un peu le nez dans le guidon en train d'avancer sur leur truc, ils n'ont pas nécessairement intégré ça, ou ils n'ont pas intégré le fait que ce qu'ils font eux, plus ce que quelqu'un d'autre va faire, plus ce que quelqu'un d'autre va faire, ça va donner des résultats quelquefois assez effarants.
Voilà. Pour illustrer ça, c'est une métaphore que je trouve très belle. C'est dans le dernier numéro de Bifrost spécial Greg Egan, il y a un entretien avec Greg Egan, qui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, lui, il met le curseur à l'infini. C'est quelque chose.
L'auteur de Art Science.
Parfois très très hard et pas à la portée de tous les lecteurs. Faut s'accrocher. Mais on lui demandait, l'intervieweuse, c'est une réédition d'une interview parue au Canada, je crois, lui demandait comment il concevait son rôle d'écrivain de science-fiction. Est-ce que et il disait, regardez, prenez une revue d'astronomie, ben, comme si elle est Espace en France, pour vous situer. Vous avez un article de pointe sur des nouvelles découvertes, l'astronomie, le nouvel aspect des planètes. Et comment vous illustrez ça? Ben, si vous avez du pot, si une sonde est passée à côté, vous avez une photo. Sinon, vous demandez à Manchu de faire un beau dessin. Et c'est marqué « interprétation de l'artiste ». Eh bien, le rôle de l'écrivain de science-fiction, selon Greg Egan, c'est ça. On a des faits, on a une théorie, on a des choses qu'il faut faire passer, qu'il faut faire comprendre. L'écrivain de science-fiction est là. Il respecte le contrat, il fait passer ses choses et il ajoute, si ça se trouve, il fait quelque chose de très personnel, il ajoute sa touche, il va plus loin, etc. Mais il ne travaille pas dans le vide.
Ce qui me fait penser à l'album de bande dessinée de Masque qui était là l'année dernière, qui s'appelle Vue d'artiste et qui essaye de nous faire de nous donner une illustration de la physique quantique des particules d'une manière, alors à la Masque, totalement délirante. Et lorsque l'on représente des personnages qui sont des particules élémentaires, des femmes qui font du catch, des trucs comme ça, et à chaque fois il y a marqué, ça c'est une particule, il y a marqué entre parenthèses vue d'artiste. C'est effectivement une vue de l'artiste masse. Oui.
D'autres questions?
Oui, je voudrais revenir sur la suspension d'incrédulité. Il y a quand même quelque chose dont il faut prendre conscience, je pense, c'est que cette suspension d'incrédulité, elle est initiale. Elle est initiale et je pense que dans les livres de science-fiction, elle n'a pas trop le droit de bouger dans sa qualité, on va dire. C'est-à-dire que l'auteur se positionne en fonction du curseur dont M. Eken a parlé tout à l'heure, mais il n'a pas trop le droit d'en bouger. Si au milieu du roman, il y a brutalement une théorie idiote qui arrive pour aider le développement du roman, etc., etc. Et si au départ, il n'y a pas quelque part cette annonce qu'il faut avoir beaucoup d'incrédulité, ça ne marche pas. Je veux dire, je prends un exemple. On a parlé de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'était effectivement une suspension d'incrédulité très importante puisque les bases scientifiques sont très faibles. Cela dit, et du coup, ça ne dérange personne d'avoir les vaisseaux spatiaux qui font du bruit dans l'espace. Encore mieux, quand on fait de l'heroic fantasy, il est clair que là, on est dans la suspension d'incrédulité, on va dire quasiment totale. On accepte une autre règle totale. En revanche, quand on est dans la hard science, eh bien, à ce moment-là, quand Larry Niven fait une bêtise, eh bien, tout de suite, on le lui fait remarquer parce qu'il se positionne, lui, en tant que, on va dire, pas scientifique, mais quelqu'un qui connaît bien. Si Greg Egan fait une bêtise, là, on le lui fera remarquer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que dans cette suspension d'incrédulité, il y a une espèce de pacte initial qui se fait entre l'auteur et le lecteur, et les lecteurs, et qu'une fois qu'il est basé, une fois qu'elle est posée au départ, on n'a plus le droit d'en bouger. Et qu'est-ce que vous pensez de ça?
Est-ce que c'est spécifique à la science-fiction? Quand on lit un roman historique, on commence à voir... moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Vous lisez un roman historique, comme celui que je viens de co-traduire il n'y a pas longtemps, qui se passe pendant les guerres de religion. Bon, on est en 1588, mettons les alentours de la Saint-Barthélemy, etc. Le personnage va de Paris à Blois, et on vous dit que la distance est de 300 km. Moi, ça me choque. Vous comprenez pourquoi ? Les kilomètres, c'est une invention de la Révolution française. Donc, ce contrat, il y a un contrat de crédibilité, plutôt qu'une suspension d'incrédulité. Il y a un contrat de crédibilité et qui est valable pour tout texte, même pour toute œuvre de fiction. Vous regardez un film américain qui se passe à Paris, quand vous voyez le trajet que fait le personnage pour aller de Roissy à son hôtel du quartier Montparnasse, vous hurlez de rire. Parce qu'évidemment, on passe par la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. C'est totalement invraisemblable, sauf si le chauffeur de taxi est un escroc. Donc,
c'est vraisemblable, ça.
J'ai lu un commentaire il n'y a pas longtemps d'un écrivain anglais qui est un grand amateur de cinéma. Il a aussi travaillé, il faisait des bandes-annonces, enfin, peu importe, Chris Fowler, qui disait que chaque fois qu'il voit voir un film américain qui se passe en Angleterre, ça le fait hurler de rire, parce que les Américains, pour eux, l'Angleterre, c'est encore les petits villages avec les cottages, etc. Londres, ils ne savent absolument pas à quoi ressemble Londres aujourd'hui, sauf exception. Bon, maintenant que la série Sherlock a un peu popularisé la vision de Londres d'aujourd'hui, ça a peut-être changé. Il y a un contrat de crédibilité, mais avec tout bouquin de tout genre. Que ce soit un western,
je te recommande Un poisson nommé Wanda, où le dragueur, pour draguer la fille, compare ses seins aux deux dômes de la cathédrale de Milan, les deux dômes de la cathédrale de Milan. Et en fait, les dômes de la cathédrale de Milan, ils sont gothiques, c'est-à-dire ces espèces de machins pointus avec plein de trucs hérissés. Et tous les Italiens, quand ils regardent cette scène-là, ils sont par terre de rire.
L'essentiel, c'est de poser un cadre. N'importe quel récit vous pose un cadre. Alors à partir du moment où le cadre est posé, vous le respectez, hein. Il faut être cohérent avec le cadre qui était posé, donc quel que soit le niveau du curseur. Voilà. Mais si tout d'un coup, on voit que le curseur se promène de tous les côtés, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein.
Parmi les collections en France qui étaient le plus réputées pour publier de l'art science, il y avait Ailleurs et Demain de Gérard Klein, et qui a publié à un moment donné une série que j'ai co-traduite, L'Aube de la nuit de Peter Hamilton. Et cette série l'avait emballé parce qu'il me dit qu'il y a une cohérence interne absolument fabuleuse. Une fois que les principes sont posés, il n'y a aucune contradiction. Et pourtant, dans cette série de science-fiction ou de SF, si vous voulez être plus vague, les morts reviennent à la vie. Bon, l'explication arrive à la fin du sixième volume. Et elle respecte la cohérence définie dès le début et respectée tout le long, mais elle n'est absolument pas crédible.
Donc, depuis le début, vous parlez beaucoup d'une exigence, finalement, scientifique, de respect, etc. Mais je me demandais aussi si on ne pouvait pas dire que la science-fiction, ça apportait aussi un confort scientifique, justement, et que sous prétexte de futur, sous prétexte d'évolution scientifique, on pouvait se permettre, finalement, un petit peu tout, et que les trois quarts des lecteurs, est-ce que vraiment... Enfin, moi, personnellement, quand j'ai de la science-fiction, si se téléportent, les personnages se téléportent, j'admets qu'ils se téléportent et je ne veux pas aller me prendre la tête sur mais bon, on n'explique pas comment ils ont découvert la téléportation et pourquoi et comment et nanana. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un certain confort dans la science-fiction où on peut se dire que sous prétexte de science-fiction et de science qu'on a découvert tel obscur théorème et machin, on peut faire un petit peu quand même tout ce qu'on veut quoi, finalement.
Ça, c'est l'éternel débat avec la science-fiction. Il y a beaucoup, lorsque la science-fiction était discréditée, très souvent, on essayait de lui redonner des lettres de noblesse en disant que ça, c'est de la mauvaise science-fiction, parce que justement, l'auteur n'a pas fait l'effort de se documenter ou d'être au minimum plausible. Bon, c'est son droit. À peu près tout ce qui est la science-fiction juvénile fonctionne à peu près comme ça. Et puis, on va surtout pas mettre trop de science dans un récit pour enfants ou adolescents. Par contre, oui, ça n'empêche pas qu'à côté de ça, il y a quand même de bons bouquins. Et dans la littérature générale, c'est exactement le même problème. Il y a des livres qui sont très réussis, puis il y en a d'autres. On se demande même pourquoi ils ont été publiés, quoi.
Moi, je pense que c'est une question... Je vais exposer une petite théorie qui est la mienne sur la science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est un objet qui a plusieurs dimensions au sens géométrique. Il y a une dimension de plaisir, une dimension ludique. Il y a une dimension d'imagination. Il y a une dimension romanesque, sauf si on parle de poésie, et il y a une dimension spéculative. C'est-à-dire que...
De réflexion, je dirais, en général.
De réflexion, de spéculation, d'extrapolation. Et un objet qui peut avoir... Mettons que j'ai déterminé 6 dimensions pour cet objet, mais un objet dont... qui n'en a que 5 parce qu'il lui en manque une, eh ben, on le juge suivant ces 5 dimensions. Je veux dire, la peinture, c'est 2 dimensions, la sculpture, c'est 3 dimensions. Vous n'allez pas dire cette peinture est meilleure que cette sculpture. Ça ne veut rien dire. Vous dites, je préfère cette peinture-là, je préfère cette sculpture-ci, parce que tel ouvrage, comme celui que vous décrivez, bon, mais là, c'est l'imagination qui s'envole. Il y a un baratin scientifique, que les Américains appellent arm waving, des gesticulations, on vous donne une explication bateau, mais bon, on est là pour voir comment ça marche quand on se téléporte, quand un tel se trompe d'embranchement, quand il est dédoublé en se téléportant qu'il y a 2 images, etc. Ça fait travailler l'imagination. Et on sait très bien... Alors, il me semble qu'on a réussi à téléporter un photon récemment. Hein. Voilà, donc ça se trouve, c'est possible. Jusqu'à une date récente, tous les écrivains de science-fiction n'avaient trouvé aucune théorie permettant d'étayer la téléportation. Là, maintenant, ils commencent à dire, tiens, c'est peut-être un peu légitime de parler de ça. Donc, la science, elle change d'avis de temps en temps. Ah ben voilà, là, écoutez les gars, pour l'instant, ça, on n'a pas de théorie. Le voyage plus rapide que la lumière, exploration de l'espace, voir les conférences de Roland Look, au jour d'aujourd'hui...
On ne sait pas faire.
On ne sait pas faire. Voilà, ouais. C'est exactement comme ça.
On peut le conceptualiser, mais on ne sait pas faire.
Et demain et après-demain. Donc l'imagination, faut pas l'oublier.
Prenez, il y a un exemple intéressant, c'est la série télé qui s'appelle The Expanse. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, bon, qui est une très bonne série de science-fiction de mon point de vue. Elle part d'un certain nombre de présupposés. Il y a un moment donné, par exemple, il y a un gadget, on a besoin que les vaisseaux aillent quand même assez vite, parce que sinon ça n'a aucun sens, il faut mettre 6 mois pour aller de là à là, il ne va jamais rien se passer, quoi. Et donc il y a quelqu'un qui invente, qui a bricolé son vaisseau dans son garage, grosso modo, qui démarre, qui installe un truc, puis qui meurt, parce qu'il est tellement dans l'accélération qu'il n'arrive même pas à arrêter son vaisseau. Mais donc, on a une espèce de gadget qui dit, ok, j'ai un type, on ne sait pas comment, qui a inventé un vaisseau très très rapide. Et comme on a montré le drame de ce type qui meurt prisonnier des forces de son propre vaisseau, à la limite, on a un capital sympathie, on y croit. Mais par contre, ce qui est très très remarquable dans The Expanse, c'est qu'on est dans une situation où une civilisation future qui a essaimé dans le système solaire, où les gens qui ont essaimé sont a priori les pauvres de tout un tas de pays, c'est pas les riches. Donc c'est un endroit où on parle tout un tas de langues et où la langue qui sert à communiquer, l'espèce de pidgin qui sert à communiquer, emprunte à tout le monde. Mais à tout le monde, ça veut dire que vous entendez des mots français, vous entendez du russe, vous entendez du pidgin, vous entendez du malais, vous entendez tout un tas de trucs. Et même si l'américain est censé être le texte dominant, le nombre de mots de base étrangère est extrêmement important. Et ça, cette crédibilité-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu marre, moi, en tant qu'éditeur, de voir des livres de science-fiction dans lequel qui se passe dans un univers qui est toujours le même, un univers alternatif, dans lequel il y a un continent absolument énorme qui s'appelle l'Amérique, surtout l'Amérique du Nord, et puis quelques îles minuscules et assez peuplées qui s'appellent la Chine, qui s'appellent l'Europe, etc., dans lesquelles vivent des peuplades qui n'ont rigoureusement aucun intérêt, et jamais aucun extraterrestre normal n'aurait l'idée de se poser ailleurs qu'à Washington. Bon, c'est clair, je veux dire. Et puis ça, là, on se dit, quelque part, on a un vrai problème. Et quand vous avez un étranger, en général, c'est un Mexicain et il meurt. Bon. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, vous avez un truc, quelquefois, les plus avancés, ils ont un Canadien, ils meurent aussi, hein, mais c'est un Canadien. Voilà. Donc, vous avez ça. Bon. Et ben, à un moment donné, moi, on m'a proposé des tas de bouquins comme ça, on m'a proposé une série de space opéras absolument intéressantes, d'ailleurs, par ailleurs, mais où les gens allaient reporter la guerre entre le nord et le sud des États-Unis sur des planètes lointaines. À un moment donné, je disais aux gars, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, en Europe, de ce truc-là? On ne sait même pas ce que c'est. La guerre de sécession, c'est votre machin, mais oui, mais tu comprends, c'est quand même un machin vachement important, c'est universel. Ben non. Et le problème de l'universalité, à un moment donné, c'est aussi de se dire, dans le futur, on est tout mélangé, qu'on le veuille ou non. Et donc, on n'écoute pas du rap, je reviens toujours à mes 2200 machins, etc. On n'écoute pas ça. On invente quelque chose. Ce qui est intéressant dans The Expanse, c'est que la musique qu'on écoute, elle ressemble à rien. C'est de l'indus, c'est quelque chose dont on se dit, tiens, ça peut parfaitement correspondre aux bruits qu'on entend. Les bruits qu'on entend dans The Expanse, c'est le métal qui craque. Et ça, croyez-moi, dans une station spatiale en métal exposée au vide, c'est un bruit auquel vous avez intérêt à vous habituer, hein. Le bruit du métal qui se contracte et puis qui est compensé par des joints en général type silicone, etc. Très, ben ça, vous avez intérêt à vous y habituer. Donc ce bruit-là, vous l'avez. Ça veut dire que le type a fait la démarche de dire, ok, j'ai fabriqué une station spatiale à tel endroit, maintenant, il se passe quoi? Il y a quelle odeur? Qu'est-ce qu'on entend comme bruit? Et comment on peut y vivre? Et la réponse, c'est comme ça. C'est une des bonnes réponses.
Je crois qu'on n'est malheureusement pas le temps d'une autre question, donc c'est le mot de la fin. Je vais remercier nos intervenants et vous remercier tous.